Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir et bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse d'RMC qui est diffusée tous les samedis soirs après l'After Foot et qui est proposée par le diocèse de Monaco. Et ce soir, on reste un peu chez nous, entre guillemets, entre monégasque, parce que j'ai le très grand honneur de recevoir l'ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO, Madame Anne-Marie Boisbouvier. Bonsoir, Excellence.
Bonsoir, Mathéo. Merci de m'avoir invité.
Merci d'être venu. Et vous êtes ici ce soir parce que on va parler d'un événement qui est très particulier, très important pour Monaco, c'est-à-dire la Sainte Dévote qui est célébrée chaque année le 27 janvier et qui est une sorte de fête nationale, n'est-ce pas?
Alors, on fête plus particulièrement la Sainte Patronne de la Principauté le 26 et le 27. Le 26, c'est une fête traditionnelle, que je vais qualifier d'une tradition presque familiale, et ça s'inscrit aussi bien dans l'histoire que dans la légende de cette jeune fille qui avait été tuée parce qu'on lui demandait de répudier sa foi. Et ce qu'elle n'a pas fait, elle a été donc tuée, et elle était en Corse à ce moment-là. Elle a été mise dans une barque et la légende veut que cette barque, au lieu de partir et de dériver vers l'Afrique, a été accompagnée par une tempête jusqu'à Monaco. Et lorsque la population de Monaco a récupéré son corps, ils lui ont donné une sépulture dans un vallon qui maintenant
s'appelle
où il y a effectivement l'église Sainte-Dévote. Et en fait, il y a eu en fait des miracles qui se sont produits au fil du temps et des personnes mal intentionnées ont voulu utiliser les ossements de cette sainte, les emmener. Et en fait, là aussi, une autre difficulté s'est montée contre eux au niveau de la mer et ils n'ont pas pu sortir du port. Donc la population a rattrapé ces brigands et ont brûlé la barque dans laquelle ils essayaient de s'enfuir. Donc c'est un petit peu cette légende qui est revécue lorsqu'il y a effectivement l'embrasement de la barque le 26 au soir après une procession et une messe. Et le lendemain, il y a vraiment une messe en la cathédrale également avec la présentation de l'ossuaire
des reliques de la Sainte.
Oui.
Parce qu'effectivement, nous rappelons aussi qu'elle est la Sainte Patronne de la Corse.
Exact.
Parce que vous êtes liée avec cette île française à travers cette Sainte. On parlera encore de cette fête, mais d'abord, vu que, comme je disais, vous êtes l'ambassadeur de Monaco auprès de l'UNESCO, j'aimerais vous demander un petit peu quels sont les relations internationales que Monaco entretient. Parce que c'est un petit État, on le sait, il a une surface de 2 km carrés, mais pour autant, il est très présent à l'international, à la fois avec des relations bilatérales, mais aussi avec des traités internationaux, n'est-ce pas?
Tout à fait. En fait, la Principauté de Monaco est devenue membre d'un certain nombre d'organisations internationales au moment, évidemment, de leur création, comme ça a été le cas pour l'UNESCO, qui a été créée en novembre 45. Mais la Principauté en est devenue partie un petit peu plus tard. L'année prochaine, ce sera les 75 ans de Monaco à l'UNESCO. Effectivement, donc, dans ces organisations internationales, un pays vaut une voix. Donc, c'est une reconnaissance importante pour même un tout petit pays comme le nôtre. Et c'est surtout une chance extraordinaire de faire valoir notre voix dans les enceintes internationales. Le prince Rainier était une personne très attachée également à faire reconnaître la principauté sur la scène internationale. Et en 93, Monaco est devenu membre des Nations Unies en qualité d'État membre.
À 100%.
À part entière, bien sûr.
La France, l'Italie,
tout à fait. Et donc, ça fait 30 ans cette année et nous allons fêter cela aussi cette année, effectivement. Donc, la présence de la principauté sur la scène internationale en tant qu'État a les mêmes engagements, les mêmes obligations que n'importe quel grand pays et peut devenir partie à ce que l'on appelle des conventions internationales, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, bien évidemment, ou l'environnement pour lequel la principauté est très, très attachée à ce genre de sujet.
Depuis plus d'un siècle désormais, Monaco attire l'attention du monde sur l'importance de protéger notamment les océans, la mer. Et c'est un travail qui a été commencé par le prince Albert Ier. Et est-ce que on peut dire quelque chose sur cette attention vis-à-vis des mers qui est propre de Monaco?
Oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est vrai que la principauté de Monaco, au travers de ses souverains, et plus particulièrement le prince Albert Ier, qui est le trisaïeul du prince Albert II, le prince souverain actuel, était très, très engagé sur la connaissance des mers et des océans. Il a effectué un certain nombre d'expéditions. Il a également permis d'avoir ce regard si particulier, mais surtout un regard visionnaire sur l'importance de ce poumon pour la planète. Ce sont des choses qui effectivement ont mis du temps à être pris en considération et qui est un sujet tellement d'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons cette chance d'avoir cet ADN pour Monaco de cet engagement vis-à-vis de la protection de l'environnement, plus particulièrement pour la mer et les océans, avec, bien sûr, vous le connaissez, le musée océanographique, mais également le prince Albert Ier avait créé un institut océanographique ici à Paris, rue Saint-Jacques, et ce sont des actions d'envergure qu'il avait pu mener au niveau de ses recherches.
Qui était très en avance par rapport
très en amont, très, très, très visionnaire, très, très en amont de ce qui se faisait effectivement à l'époque et qui sont toujours utiles. Je pense notamment aux cartes bathymétriques qu'il avait pu créer et qui sont toujours utilisées à l'heure actuelle. Donc ce sont des points d'importance.
Oui. Revenons à la culture et tout à l'heure encore on parlera de la fête de la Sainte Dévote. Vous avez dit que le prince Albert II est très attentif aussi à l'importance, à la culture et donc à l'UNESCO, c'est un peu l'un des théâtres de cette action de Monaco. Pouvez-vous nous dire comment votre pays contribue au travail de cette institution internationale ou aussi dans d'autres domaines du point de vue culturel?
Alors, du point de vue culturel, nous avons un certain nombre de textes internationaux, bien sûr, au niveau de l'UNESCO, dont la principauté est partie, que ce soit une des conventions que la plupart des personnes a en tête lorsqu'on parle de l'UNESCO, c'est la Convention du patrimoine naturel, mais également un texte un petit peu plus récent qui date de 2003, un traité, donc une convention internationale auquel Monaco est partie également, c'est le patrimoine immatériel. Mmh. Et dans cette convention rentre en ligne de compte justement des traditions, des savoir-faire, des chansons, des coutumes. Donc ce sont des aspects assez intéressants parce que de façon j'allais dire plus logique, l'idée de Sainte Dévote pourrait un jour devenir peut-être un des biens que l'on protégerait au travers
patrimoine immatériel de l'humanité.
Voilà, parce que c'est une tradition. Voilà, ce serait un des aspects effectivement qui pourrait être étudié pour que la principauté puisse passer ce bien, cette tradition en tant que bien immatériel de l'humanité.
Vous disiez tout à l'heure que c'est une fête très familiale et effectivement un peu toutes les familles monégasques participent de façon très, très intime si on veut avec le reste de la population et c'est le cas aussi pour la famille princière, n'est-ce pas?
Tout à fait. Le souverain est très attentif. Il participe chaque année, accompagné par ses enfants. Et souvent, effectivement, ce sont les familles avec les enfants qui viennent pour l'embrasement de la barque. Je me souviens petite, c'était effectivement mon cas. À l'issue,
c'est
d'ailleurs,
une fête pour les enfants de voir cette barque qui arrive.
C'est impressionnant, effectivement.
Les flammes sur les eaux de la mer.
Alors, c'est pas sur la mer. Okay. C'est jusqu'à il y a deux ou trois ans, mais je crois pas qu'avec le Covid, ça un petit peu changé le lieu où ça se passe, mais c'était sur le parvis de l'église Sainte Dévote. Effectivement, le feu était mis à la barque devant la population et les enfants attendaient la fin pour pouvoir aller récupérer souvent des petits clous. Parce qu'en fait, ça censé apporter la chance, le bonheur à la maison. Donc, vous voyez tous les petits enfants qui sont munis de gants, bien sûr, et qui reviennent avec des gants troués parce qu'ils ont été brûlés, mais ils récupèrent effectivement des petits clous pour les ramener
sous
à la maison.
Sous les yeux attentifs de leurs parents, j'imagine.
Tout à fait, tout à fait.
Et pourquoi, à votre avis, il y a, comment dire, une importance si forte pour une fête qui est religieuse à la base, mais qui concerne aussi la sphère civile de votre État.
Alors oui, ça on va... Quand on parle de tradition, c'est difficile de sortir uniquement l'aspect religieux ou pas. Bien sûr, c'est quand c'est une population qui fait sienne une tradition, on peut difficilement expliquer s'il n'y a qu'un aspect spirituel ou un aspect... Bien sûr, il y a un aspect que de tradition, de famille et... Je vous dirais que je n'ai jamais raté une fête de la Sainte Dévote. Donc la semaine prochaine, je serai effectivement à Monaco pour cela. Mais c'est vrai que la religion rentre quand même dans une certaine part, bien sûr, dans notre approche, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est vrai que pour Monaco, la religion catholique est religion d'État, voilà. Mais au niveau constitutionnel... Tous les cultes sont autorisés à Monaco, donc ça n'est pas une obligation, bien évidemment, mais il y a une religion d'État et les fêtes sont souvent des fêtes religieuses et sont suivies par la population, bien sûr.
Et c'est pour ça que d'ailleurs on avait parlé lors de la fête nationale, la fête du prince en novembre avec le directeur de la communication du diocèse de Monaco, l'abbé Christian Vénard, et effectivement il nous avait expliqué quelles sont les relations, comment dire, la laïcité à la monégasque, si on peut dire comme ça, c'était quelque chose qui était très intéressant. Pour revenir un petit peu à la principauté de Monaco, il y a tout au long de l'année une série d'événements culturels qui sont de haut niveau et qui servent aussi à promouvoir la culture internationale, non seulement monégasque, toujours un peu pour les raisons de taille du pays, mais est-ce que il y a d'ailleurs plusieurs endroits où on peut assister à des spectacles et à des expositions, etc., n'est-ce pas?
Oui, effectivement, on a une grande chance à Monaco d'avoir un panel de choix, que ce soit de l'opéra, que ce soit l'orchestre philharmonique, que ce soit les ballets, mais également évidemment les lieux qui s'y prêtent, c'est-à-dire aussi bien au Grimaldi Forum que dans d'autres enceintes, d'accueillir des artistes, que ce soit national, j'allais dire, au niveau des structures que je viens d'évoquer, mais aussi international. Et pour les structures nationales, elles font également des tournées à l'étranger, elles se produisent dans différentes villes à travers le monde. C'est une façon, effectivement, de rayonner en matière culturelle, en matière diplomatique également. Et comme on le dit toujours, ça rapproche les cultures, ça rapproche les gens, ça rapproche évidemment des façons de voir, des façons de pouvoir échanger.
Et puis, naturellement, vous êtes inséré dans le territoire qui est celui de la Côte d'Azur, et donc il y a des interactions très importantes aussi avec le monde culturel autour, de la région autour.
Tout à fait, il y a souvent des vérifications pour ne pas évidemment avoir les mêmes, je présume, mais là c'est au niveau national, c'est pas mon domaine, mais de ne pas faire les mêmes événements ou en tout cas les mêmes artistes. Donc c'est un travail mené par Monaco j'allais dire presque en collaboration, ou en tout cas pour vérifier que l'offre culturelle qui est proposée à la population soit la plus variée, la plus de qualité également possible, pour permettre aussi aux personnes qui habitent pas obligatoirement à Monaco de pouvoir venir en principauté et pouvoir en profiter, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a une mission particulière pour 2023 pour en ce qui concerne votre travail à l'UNESCO, ou est-ce qu'il y a une cause nationale entre guillemets particulière du point de vue culturel pour 2023?
Alors d'un point de vue culturel, pas particulièrement. En revanche, l'année 2023-2024 sera les 100 ans de la naissance du prince Rainier III. Et je sais qu'il y a un certain nombre de manifestations qui sont prévues aussi bien à Monaco qu'en extérieur, avec un comité qui se charge de cela. Donc je suis un petit peu dans la boucle, mais c'est plutôt sur la principauté qu'il va y avoir un certain nombre de manifestations, plus, comme je le disais, les 30 ans de Monaco à l'ONU. Donc ça, ce sera, je présume, aux alentours de mai-juin, puisque c'était à cette période que la principauté est devenue membre de cette organisation à New York.
Je vous remercie, Madame Anne-Marie Boisbouvier. Je vous rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la principauté de Monaco auprès de l'UNESCO. Et je remercie aussi tous nos auditeurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver aussi sur le site et sur l'app de RMC, ou naturellement samedi prochain, toujours après l'After Foot. Bonne nuit.
Merci infiniment, Mathieu.
Merci.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.